Quittons maintenant le Moyen Âge pour évoquer l'évolution de la démocratie représentative et l'affirmation des idées libérales au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Plusieurs penseurs à cette époque ont révolutionné la pensée démocratique. L'idée d'égalité entre les citoyens, c'est un héritage de l'Antiquité, un héritage de la démocratie athénienne, mais dans les États européens, la solution qui a été proposée à cette époque par différents penseurs n'était pas la démocratie directe, probablement en raison du nombre des électeurs. Il était sans doute plus facile d'adopter la démocratie directe à Athènes avec quelques milliers, voire dizaines de milliers d'habitants, plus facile qu'à l'époque moderne avec des États beaucoup plus peuplés. La première expérience libérale, j'entends libérale au sens du libéralisme politique. Nous avons vu en classe qu'il convenait de le distinguer du libéralisme économique. Cette première expérience libérale, elle a eu lieu en Angleterre au XVIIe siècle. Le Parlement, que nous avons déjà évoqué à partir du XIIIe siècle, comporte une chambre élue qui s'appelle la Chambre des représentants. En 1679, il y a eu une première loi importante, l'habeas corpus. Habeas corpus signifie en latin « tu as le corps », ça veut dire « tu détiens le prévenu ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant l'habeas corpus, donc 1679, on pouvait arrêter quelqu'un sans le présenter à un juge et la personne pouvait complètement disparaître dans une geôle ou une oubliette sans que sa famille ne sache jamais ce qu'elle était devenue. Avec l'habeas corpus, on a l'obligation, la puissance publique a l'obligation, lorsqu'elle arrête quelqu'un, de présenter cette personne à un juge dans un délai très court. C'est donc une mesure importante en faveur de la liberté des justiciables et de la protection par le droit de chaque individu. Cette loi importante, donc prise en Angleterre, votée par le Parlement en 1679, sera suivie, 10 ans plus tard, en 1689, par le Bill of Rights, que l'on pourrait peut-être traduire par la somme des droits ou la liste des droits, ce Bill of Rights limite le pouvoir royal. L'Angleterre a donc apporté une contribution très importante au XVIIe siècle à l'évolution vers une démocratie qui prévoit la liberté des habitants et qui s'appuie sur l'idée de liberté. Passons maintenant à la France. La pensée de la démocratie représentative a mûri pendant le XVIIIe siècle. Le penseur que l'on doit absolument citer sur ce sujet est Montesquieu. Montesquieu prévoit la séparation des pouvoirs dans un livre qui s'appelle « De l'esprit des lois » que vous avez peut-être vu en français si vous avez étudié la philosophie des Lumières. Il pense que la démocratie représentative doit s'installer suivant des formes différentes selon la nature des États. Selon la nature des États, on a des électeurs plus ou moins nombreux. On peut donc essayer d'avancer sur une démocratie semi-directe ou directe sous une forme républicaine. Par contre, dans un État aussi grand que la France ou l'Angleterre, qui sont les deux plus grandes puissances à l'époque, c'est la démocratie représentative qui doit s'imposer, c'est-à-dire une démocratie exercée par l'intermédiaire de représentants. Dans les États les plus vastes comme la Russie, Montesquieu considère que la démocratie est très très difficile parce que l'État est trop grand. En tout cas, cette démocratie représentative doit s'appuyer sur la garantie des libertés, et cette garantie des libertés, c'est véritablement la séparation des pouvoirs, il faut que les pouvoirs soient séparés et équilibrés. Pour mémoire, je rappelle, il s'agit du pouvoir législatif, le pouvoir de faire la loi, du pouvoir exécutif, exécuter la loi, et du pouvoir judiciaire, juger selon la loi. Il faut que ces trois pouvoirs soient séparés, sinon on est en butte à l'arbitraire c'est-à-dire au pouvoir excessif dans les mains d'un seul individu ou d'un groupe d'individus. Ce système impose que les citoyens élisent des représentants. Dans chaque circonscription, le peuple doit élire des députés à toutes les échelles, locales et nationales, et ces députés sont ensuite libres de participer aux débats et de voter les lois. Et là, il y a une réflexion à faire. Est-ce que l'élu, une fois qu'il est élu, selon un programme, selon une orientation, est-ce que l'élu, une fois élu, fait absolument ce qu'il veut, en considérant qu'à partir du moment où on l'a élu, il décide pour ses électeurs? Ou est-ce qu'il a un mandat impératif, c'est-à-dire qu'il doit revenir régulièrement vers ses électeurs pour les consulter afin de rendre compte à chaque consultation importante de l'avis de ses électeurs? Cette solution a souvent été considérée comme trop difficile à mettre en œuvre, mais elle génère parfois des insatisfactions de la population, le peuple pouvant considérer parfois qu'il a été trahi par ses élus une fois que ceux-ci ont été mis en place. Jean-Jacques Rousseau, par exemple, considère que la démocratie directe, ou le mandat impératif, c'est-à-dire le retour vers les électeurs régulièrement pour remettre en jeu son élection et consulter régulièrement les électeurs afin de ne pas les trahir, cette idée-là a souvent été défendue par un autre penseur, Jean-Jacques Rousseau. Il considère que la démocratie directe et la consultation régulière des électeurs est la seule façon de lutter contre l'asservissement social des citoyens. Cette question a été débattue au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, en France, elle a été tranchée d'abord par la monarchie constitutionnelle, avec la séparation des pouvoirs entre le roi, qui continue à exercer le pouvoir exécutif, et l'Assemblée, qui exerce le pouvoir législatif.